Qu'est-ce qui vous échappe, à vous? Dans le film de mon invité ce matin, il y a une scène qui me trouble. C'est au tout début. C'était étrange parce qu'une vingtaine de minutes a passé, mais on l'a toujours pas vue, la jeune fille du titre. Et quand elle apparaît, c'est de dos, en bas d'un escalier, plongée sur elle, ou plutôt sur sa cape sombre. Elle est immobile, dans la pénombre. Chaque fois qu'on s'avance, elle s'enfuit, la voilà qui passe la porte, toujours de dos, et qui marche sans se retourner. Alors il faut la suivre, il faut accélérer le pas, et quand elle accélère, la capuche tombe et laisse apparaître ses cheveux blonds. Mais ça on le sait déjà, parce qu'on nous l'a dit qu'elle avait les cheveux blonds. Alors on la suit encore, et elle se met à courir de plus en plus vite vers la falaise. Et elle ne tremble pas la caméra, elle la suit, elle la regarde, sa robe qui se soulève dans la course, elle laisse apparaître ses bas blancs, un peu de ses jambes, autant dire presque rien, on la voit pas, on se dit qu'elle va sauter ou qu'elle va tomber, mais elle s'arrête juste à temps, elle se retourne, quelques secondes à peine, elle dit « ça fait des années que je rêve de faire ça ». Mourir, lui rétorque celle qui la suit et qui est censée la peindre, courir. Elle dit courir, pas mourir. Et à peine l'a-t-on regardée qu'elle s'est déjà retournée, qu'elle marche toujours de dos. Elle s'échappe, elle nous échappe. Et c'est ça qui est beau.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Qu'est-ce qui échappe à mon invité d'aujourd'hui? Et à quoi échappe-t-elle? À quel code? À quel cadre? À quel carcan? Elle est cinéaste, elle interroge le désir, le regard et la lumière. En mai dernier, le festival de Cannes s'enflammait pour son portrait de la jeune fille en feu et lui décernait le prix du scénario, l'histoire d'une rencontre entre deux femmes à la fin du XVIIIe siècle, un récit de corps et d'esprit en salle après-demain. Bonjour Céline Sciamma.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous échappe? À vous.
Oh, commencer par ce qui m'échappe, c'est ça y est, on bascule tout de suite dans ce qui va être le plus difficile à raconter. J'espère que c'est le film qui m'échappe bientôt. J'espère que c'est le film qui m'échappe mercredi et qui va appartenir aux autres. Mais c'est peut-être vous vous pouvez me dire ce qui m'échappe en réalité.
Mais ça m'a passionné dans ce film. Dans quelle mesure est-ce que vos films se nourrissent de ce qui vous échappe justement?
En tout cas, je crois que mes films, je les pense beaucoup. Alors, on pourrait penser justement qu'il y a peu de choses, que ce sera un cinéma du contrôle. Je crois que le cinéma de la pensée, c'est pas forcément le cinéma du contrôle. Par ailleurs, je crois qu'au contraire, c'est remettre en question sans cesse les idées. C'est justement pas se contenter de ce qui nous vient, mais travailler beaucoup, beaucoup aux idées, c'est-à-dire à les creuser, à les approfondir, possiblement pour arriver à quelque chose qui finit par nous échapper.
Oui. Alors, pourquoi au cinéma, l'image d'un personnage qui nous tourne le dos, par exemple, est-elle aussi forte?
Parce que on crée la chorégraphie de ce que c'est que de découvrir un visage. On crée la chorégraphie et dans cette chorégraphie, il y a une chorégraphie qui est absolument une chorégraphie de cinéma. Voilà, il y a le suspense d'un visage, le suspense de le découvrir. Et c'est une nouvelle émotion. Moi, j'essaie de créer des nouvelles images, des nouveaux suspenses, des nouvelles tensions autour de la question du regard.
Pour vous, Céline Sciamma, la force d'une image du cinéma, ça tient à quoi? Là, c'est autant à la spectatrice qu'à la cinéaste que je m'adresse.
Ça tient pour moi beaucoup à la nouveauté. Je crois que moi, je cherche vraiment la nouveauté, la surprise. Une émotion surprenante, et ça peut passer par le rire, ça peut passer par de nouveaux suspense. J'ai essayé de faire en sorte que dans ce dialogue amoureux, il y ait de la surprise en permanence entre elle et les spectateurs et spectatrices.
Et ça passe parce que c'est du cinéma toujours par le regard. La scène du portrait de la jeune fille en feu auquel je faisais référence, il place votre film sous le signe du regard, d'un regard qui se refuse à un autre regard. Pourquoi ce personnage, joué par Adèle Haenel, ne veut-il pas qu'on le regarde?
Mais elle ne veut pas. Elle sait déjà tout du regard qu'on porte sur elle. Elle sait que c'est un regard qui n'est pas actif. Elle sait qu'elle est déjà, qu'elle est objectifiée totalement par ce regard en permanence. Donc se refuser à ce regard, c'est refuser de donner son âme. Elle est au courant de l'objectification totale dont son personnage vit. Ouais.
Parce que le regard qui se pose sur elle, c'est comme une prison. Comment on fait quand on est cinéaste pour regarder sans enfermer son sujet?
On en fait un principe, on en fait une philosophie globale et on trouve des solutions locales, scène par scène. mais il y a cette ambition de filmer les comédiennes et les personnages comme des sujets en permanence, et ça passe par toutes les étapes en fait. Ça passe par l'écriture, ensuite ça passe par la dynamique d'incarnation et de plateau, ensuite ça se confirme au montage, et puis aussi dans le travail du son. Enfin, c'est tout, on convoque tous les outils du cinéma, toutes les idées pour répondre très localement à chaque fois à cette question.
Et par un autre regard aussi, Céline Sciamma, on parle beaucoup dans cette émission et de plus en plus de regards. La semaine dernière, avec la comédienne et jeune réalisatrice Afsia Herzi, on posait la question de l'existence d'un regard féminin. On convoquait cette idée théorique du female gaze. Qu'est-ce que ça vous évoque, à vous ?
Mais ça m'évoque une ambition, un chantier, ça m'évoque une discussion qu'il est temps d'avoir, et on est ravis de commencer à l'avoir, mais cette discussion, la France est très en retard sur cette discussion.
Comment est-ce que vous le définiriez, ce regard féminin ?
Ben, il faut surtout définir le regard masculin, je crois, parce que en fait il faut cesser de considérer qu'il y aurait un universel, que le regard masculin serait un neutre et qu'il y aurait le regard des autres, féminin parmi tous les autres. Le female gaze, c'est une dissidence. Par moments ça peut être une riposte, mais c'est convoquer d'autres imaginaires, d'autres façons de regarder. Donc on peut pas dire qu'on fasse corpus, puisque au contraire on fait dissidence. Le corpus, c'est le regard masculin, et il faut traiter les images à égalité, c'est-à-dire les déconstruire également. Donc voilà, moi je suis très souvent soumise à la déconstruction de mes images et à leur questionnement, voilà, au questionnement de mon point de vue, et juste il faut le faire avec tous et toutes, quoi.
Portrait de la jeune fille en feu, c'est donc l'histoire d'une femme peintre engagée pour faire le portrait d'une jeune aristocrate tout juste sortie du couvent et promise à un homme qu'elle n'a jamais vu. Un bon portrait, Céline Sciamma, un portrait réussi, qu'est-ce que ce serait pour vous ? Je me suis posé la question.
Bah c'est un portrait qui se met en tension dans des questions, je crois. Et d'ailleurs, le film, il est joueur avec ça, il raconte, il se pose la question de ce que c'est un bon portrait. Y compris les héroïnes se posent cette question ensemble, collaborent à cette question.
C'est aussi valable pour un film, cette tension ?
Oui, bien sûr, elle est valable pour un film. Et c'est par ailleurs, ce sont des questions qui agitaient aussi la philosophie des représentations du XVIIIe siècle. Est-ce qu'un bon portrait, c'est la meilleure version de quelqu'un ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est prendre en compte ses défauts, son présent ? Est-ce qu'un bon portrait, c'est un rapport à l'éternité, donc c'est une résistance à la mort ? Ou est-ce qu'un portrait, au contraire, c'est fixer un instant et donc le figer dans une forme de morbidité, d'un endroit qui ne sera pas plus traversé par la vie. Et oui, c'est les questions que se posent les héroïnes, le film.
Et le film, du coup, interroge sans cesse l'acte de création. Dans quelle mesure une œuvre d'art comme un film obéit-elle à des codes, Céline Sciamma, à des idées, à des conventions ? Parce que ça, c'est un dialogue qu'on trouve dans le film, dialogue fascinant, je dois dire.
En tout cas, moi, je me positionne dans cette tension. Là, par exemple, surtout quand on fait un film d'époque, on va se poser la question de l'académisme, de la règle. Ça semble même charrier tout un univers qui vous concerne pas forcément. Et comment on joue avec ça,
Il s'agit de le défier.
Il s'agit de le défier, mais moi, par ailleurs, j'avais aucune ambition de classicisme, mais par contre, j'avais l'ambition de faire un classique. Et je crois que pour faire un classique, il faut inventer des choses.
Et peut-être rendre vivant. Qu'est-ce qui rend une œuvre vivante pour vous ?
Alors, ce qui rend une œuvre vivante, oh là là, c'est difficile cette question. Je crois qu'il faut être très 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 vivante quand on l'a fait.
Et le puis, feu aussi, tout simplement.
Ouais, et aussi très engagée. Voilà, je pense que ce qui rend une œuvre vivante, c'est aussi c'est de faire l'objet le plus contemporain possible. Voilà, l'objet le plus contemporain possible, obsédé par ça, qui se pose tout le temps la question du contemporain.
Et le désir, le feu, précisément du titre, c'est un outil, ça aussi, pour rendre vivant.
Oui, et je crois que le cinéma, en plus, on a la chance, voilà, c'est pour ça que c'est de toucher à tout, de traverser toutes sortes d'états. C'est vrai qu'on commence dans la solitude totale de l'écriture, où là, on doit être animé par son feu personnel. Et puis très vite, on est rejoint par le feu des autres, toutes les collaborations. Et puis ensuite, on est rejoint par l'incarnation totale que sont les interprètes et leur feu intime, et puis le feu entre elles.
Parce qu'il est évidemment question de désir, dans ce portrait de la jeune fille en feu, dans votre film, de désir féminin, de sa représentation à travers, et c'est assez passionnant, une histoire d'amour. Quelle vision du désir lesbien, le cinéma, dans son immense majorité, a-t-il souvent mis en avant ? Parce que ça, vous y répondez, j'ai l'impression.
Oui, un désir assez... déjà, un désir caché, donc des images qu'il fallait interpréter, un désir pas officiel, désir, par exemple, voilà, Rebecca, Hitchcock, voilà, y a un personnage de femme obsédée par une autre, mais c'est montré sans être dit. Ensuite, quand c'était dit, c'est un désir généralement maladif et puni. Par la mort, globalement, souvent. Beaucoup d'assassinats et de suicides de lesbiennes au cinéma. Enfin, beaucoup. Pas beaucoup de représentations, mais en tout cas, proportionnellement, beaucoup de décès et de maltraitance. Et je pense que c'est parce que c'est un programme. Et là, pour le coup, nous, on déploie le programme d'un nouvel imaginaire érotique, d'un nouveau dialogue amoureux, fondé sur l'égalité, fondé sur une absence de conflit, fondé sur une absence de domination de genre, domination de classe et de domination intellectuelle. Et tout ça, c'est pas pour cocher les cases d'une représentation qui nous irait, c'est avant tout pour proposer un nouvel imaginaire, des nouvelles sensations de fiction.
Et ça veut dire, Céline Sciamma, que parler d'une histoire d'amour entre deux femmes, c'est encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un geste politique.
Bien sûr, mais il faut questionner pourquoi c'est si dérangeant, pourquoi ça a été si dérangeant, pourquoi ça a été raconté comme ça. Je pense que c'est un programme qui est dangereux, pour l'ordre.
Pourquoi ça manque aussi ? Pourquoi il n'y en a pas ?
Bah, sans doute parce que c'est dangereux. Sans doute que je crois que les choses qui semblent, il y a même il y a eu des dynamiques illégales, illicites, et compris dans la représentation. Donc ça veut dire que c'est un programme qui menace. Pour qui menace-t-il et pourquoi ? Ça, c'est une grande question.
C'est manque, c'est riposte. C'est ce qui a fait de vous une cinéaste aussi ?
Oui, en tout cas, c'est ce qui a fait de moi quelqu'un qui, avant d'être cinéaste, a beaucoup réfléchi aux imaginaires et à la fiction, et donc a donné une très très grande place à ça dans sa vie, et qui cherche les solutions à la mesure de la place, de cette place.
Celle qui ne cherche et qui ne trouve aucune solution dans cette émission, qui n'est ni artistique ni politique, sans doute la connaissez-vous, dès qu'il s'agit de s'engager, c'est Courage Fuyon, c'est la culture évidemment et son actualité peu investie, sauf quand il s'agit de jouer au croquet le dimanche après-midi. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 16 septembre ? Coup de blues sur la new wave, après la disparition jeudi de Philippe Pascal, chanteur du groupe français Marquis de Sade. On vient d'apprendre ce matin la mort de Rick Ocasek, iconique leader de The Cars. Il avait 75 ans, pionnier de la new wave dans les années 70. La formation qu'il menait avait été l'une des premières à fusionner guitare rock et synthé pop pour livrer des classiques comme You Might Think, Shake It Up ou Drive. L'année dernière, le groupe avait été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en même temps que Nina Simone, Dire Straits et Bon Jovi. Peace and power.
Hey gros, comment ça ils disent tous gros ? Hein, c'est nous les gros.
Ouais gros, c'est le Fifi Gros. C'est aujourd'hui que le Festival International du Film Grolandais, le Fifi Gros, s'installe à Toulouse pour une 8e édition cinéphile et délirante. Cette année, c'est Jean Dujardin qui préside l'événement, placé sous le thème des dictateurs fous. On attend Kléber Mendoza-Filho avec son Bacurao repéré à Cannes, Benoît Forjard et son frigorifique Yves, et bien sûr les indéboulonnables Carverne et Delépine, Bonsaï. Après les petites cuillères en argent, les toilettes en or massif, création provoque et explosive de l'artiste contemporain ô combien sulfureux Maurizio Cattelan, la sculpture en or 18 carats en forme de WC avec siège, cuvette et chasse d'eau, parfaitement opérationnelle dit-on, a été dérobée ce week-end dans le palais de Blenheimon, musée au sud de l'Angleterre baptisé America. L'œuvre est estimée à environ 1 million de livres, c'est ce qu'on appelle la grosse commission.
Encore ? Ah oui, encore.
SM Ton Prochain, samedi soir, le féroce jury du prix Sade a remis ses lauriers 2019 à deux jeunes auteurs ex aequo, d'une part Kevin Lambert, pour Querelle, publié au Nouvel Attila, une fiction gargantuesque et syndicale, où se mêlent en plein Québec vengeance anticapitaliste et orgie pornographique. D'autre part, Christophe Siebert, pour sa métaphysique de la viande, paru au Diable Vauvert, qui lit les pulsions animales d'un serial killer décérébré aux théories apocalyptiques d'un groupe complotiste chaud cacao. Et Céline Sciamma, invitée de Boomerang ce matin pour son portrait de la jeune fille en feu. Votre quatrième long métrage, Céline en salle après-demain. Un film en costume, on le disait. Ce qui le distingue de vos trois précédents, Naissance des pieuvres, Tomboy ou encore Bande de filles. Comment est-ce que vous avez abordé cette question du film en costume?
Ah ben je l'ai abordé exactement comme si c'était le même travail, c'est-à-dire que il n'y a pas de doute sur le fait que le cinéma c'est toujours une réorganisation du monde. Alors ça peut être le contemporain ou ça peut être le passé. Moi j'avais l'impression de faire mon travail plus, de faire de l'hyper-cinéma, c'est-à-dire c'est le niveau d'intervention qui est encore plus grand sur le réel parce qu'on est officiellement dans la dynamique de la reconstitution.
Mais ces costumes parlent aussi, ils nous disent quelque chose, non?
Bien sûr, et je crois que c'est le truc qui m'a le plus excité, c'était justement de pouvoir faire de la création de costumes et donc d'inventer le personnage à travers la silhouette et se poser la question des matières, leur lourdeur, de justement là aussi quitter certaines représentations, ne pas être dans les soies, mais être plutôt dans les cotons, le type de corset et puis les poches, voilà, leur mettre des poches, ça c'était très important.
Pourquoi ?
Pour moi. Parce que la poche a ensuite disparu au 19e siècle, on l'a pas du tout totalement récupérée et qu'à ce moment-là, voilà, les gens s'émeuvent du fait que le personnage principal met les mains dans les poches, ça peut sembler anachronique, comme s'il y avait une volonté de faire modernité, mais en réalité c'est une silhouette qui appartient à ce passé et c'est beau de la redécouvrir.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très pictural dans votre façon d'approcher aussi le costume, de l'interroger comme une matière. Quel lien est-ce que vous faites entre le cinéma et la peinture ? Peinture qui est centrale dans votre film évidemment.
Bah le lien, je fais un lien d'amitié et je fais un lien aussi de rapprochement entre le cinéma et la peinture parce que c'est évidemment aussi une façon de parler du cinéma que de parler de la peinture dans le film. Et la peinture a beaucoup à voir avec le cinéma dans la mesure où c'est une question de cadre, d'orientation, de direction de lumière et d'un personnage.
Oui, mais comment on transforme un simple plan en tableau, Céline Sciamma, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous essayez de faire, ce que vous parvenez même à faire.
En n'ayant surtout pas de référence picturale, paradoxalement, c'est-à-dire qu'avec la chef opératrice Claire Maton, on s'est posé de la question de la peinture en permanence, mais plutôt de la peinture comme travail, la peinture comme matière, de la peintre au travail et comment filmer ça. Et sinon, surtout sur le reste, sur la lumière et sur le découpage, on s'est beaucoup on s'est posé la question de la beauté, en fait. On s'est posé la question du peintre plutôt que la question de la peinture.
Mais moi, je pense tout de suite à cette image très forte et très fugace dans le film, celle d'une jeune femme vêtue de blanc qui apparaît la nuit comme un fantôme. En quoi le cinéma, Céline Sciamma, serait-il pour vous un art qui fabrique des fantômes ?
Peut-être que c'est un art qui peut-être qu'au départ il y a les fantômes. Peut-être que c'est le point de départ des films plutôt que leur point d'arrivée. En tout cas, le film, il a cette particularité à la fois d'être la chronique d'un amour au présent qu'il regarde naître et s'épanouir très patiemment, en même temps aussi le souvenir d'un amour.
C'est ça.
C'est un grand flashback. Et ces apparitions fantomatiques, c'est l'idée qu'on est sans doute déjà hanté par la fin d'un amour, toujours hanté peut-être par sa dernière image.
Alors le cinéma fabriquerait des souvenirs?
Oui, et puis quand les histoires n'ont pas été beaucoup racontées, possiblement quand ça marche bien, il peut même fabriquer de la mémoire.
Par quel souvenir, par quelle mémoire est-ce que vous êtes habité, vous, pour ne pas dire hanté ?
Je crois qu'on est tous et toutes habités par nos enfances et nos amours.
L'histoire d'amour que vous racontez, elle est à bien des égards inspirée du mythe d'Orphée et Eurydice que vos héroïnes évoquent dans le film. Orphée, le poète, on le rappelle, va chercher son amoureuse Eurydice aux enfers et alors qu'il est sur le point de la ramener dans le monde des vivants, il se retourne alors qu'on le lui a interdit. Et la question que vous soulevez, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi le poète se retourne? Quel choix est-ce qu'il fait en se retournant? Je vous la pose, cette question.
Il y a plusieurs hypothèses dans le film. J'avais à cœur d'ailleurs de montrer des femmes qui débattent entre elles et qui ont chacune leur opinion. Depuis, j'ai beaucoup tourné en France avec le film, et il y a une spectatrice qui m'a parlé du mythe d'Eurydice plutôt que du mythe d'Orphée. Je crois que c'est ça que produit aussi ce moment. Certes, on se pose la question de pourquoi le poète s'est retourné, mais on se pose aussi la question du rôle d'Eurydice dans ce retournement. Alors, voilà, l'hypothèse de la peintre, c'est qu'il fait le choix du poète, c'est-à-dire le choix du souvenir plutôt que le choix de l'amoureux.
Et vous, Céline Sciamma, vous auriez fait quel choix, tiens ?
Moi, là, clairement, j'ai fait le choix du poète puisque j'ai fait le film. Mais bon, les films peuvent être des gestes d'amour aussi, donc c'est... je ne choisis pas.
Vous choisissez rien ?
Je fais beaucoup de choix, donc j'ai l'impression que j'ai aussi le droit à une part de mystère.
On va regarder du mystère, hein. Puis on va reparler tout ça évidemment d'amour, de poésie juste après de l'émotion, du lyrisme et du feu, parce que ça c'est vraiment un plaisir, rien que pour nous deux. Beyoncé, Halo plutôt, en 2009. Vous êtes sur France Inter, Céline Sciamma, Boomerang.
walls I built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, you know you're my saving grace. You're everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I can feel your halo.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Avec son œil vif, pétillant, intelligent, son cheveu blond foncé, doux, curieux, son air concentré, appliqué, mais qu'on devine, prompt à se dérider, haute comme trois pommes. On a pourtant l'impression d'être assis à côté d'une géante, là. Hein. Elle est tout en noir ce matin, avec sa veste en jean noir, puis ses bagues, son bracelet doré, la cinéaste Céline Sciamma, invitée de Boomerang, pour ce portrait de la jeune fille en feu, en salle après-demain, un grand film d'amour qui vous a valu le prix du scénario à Cannes en mai dernier, et qui marque aussi, c'est vrai, par ses dialogues. Vous qui venez du scénario, Céline, je crois, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dialoguer ?
C'était en tout cas une très belle nouvelle opportunité de le faire. J'ai fait des films pas tant dialogués que ça jusqu'ici. En tout cas, là, pouvoir approcher le dialogue amoureux, c'est et l'amour vécu, et comment on se séduit, et comment on s'est séduit aussi par notre cérébralité, comment on se surprend, ce jeu de ping-pong, ça c'était un plaisir, ça faisait vraiment partie des plaisirs que m'offrait le film.
Vous voulez dire que le dialogue, le langage, participe de la construction du sentiment amoureux, en fin de compte ?
Mais évidemment. Moi, je crois que même l'enjeu de toute histoire d'amour, c'est la fabrication d'une langue, et que l'enjeu aussi des nouvelles histoires d'amour, c'est se raconter à nouveau. Je crois qu'on tombe amoureux quand on veut se raconter à nouveau. Donc c'est à la fois le récit de soi et puis la langue qu'on produit ensemble. Il y a chaque histoire a son humour, chaque histoire a ses références, chaque histoire a ses ellipses, a ses effets de synthèse. Et c'est vraiment un dialogue amoureux, c'est produire une langue. Oui.
Direz-vous que le cinéma est un dialogue amoureux pour vous ?
C'est un dialogue amoureux avec les spectateurs et spectatrices. En tout cas, moi, je pense à eux et à elles, beaucoup, dans la fabrication de ce dialogue. Ouais.
Parce que si le langage et la pensée ont quelque chose de séduisant, on peut se poser la question, ça a même quelque chose d'érotique, j'ai l'impression, chez vous, la pensée, non ?
Ah bah oui.
Mais attendez, c'est pas forcément toujours à la mode. Comment ça ? En quoi est-ce que c'est érotique, la pensée, tiens ?
Bah, je crois que c'est comme ça qu'on... En tout cas, moi, j'ai eu vraiment à cœur d'écrire des personnages comme ça. C'est-à-dire, rencontrer la pensée de quelqu'un, c'est rencontrer son système de logique. C'est rencontrer la singularité des chemins, des arborescences que prend sa pensée. Et donc, c'est le rencontrer dans le temps. Enfin, J'essaye de faire en sorte que les personnages soient émus par ça, en tout cas dans leur dernier mot. Moi, ça m'émeut beaucoup.
Pensez-vous, Céline Sciamma, que la pensée soit considérée à sa juste valeur aujourd'hui?
Je trouve que non, dans le sens, je trouve qu'en tout cas, on devrait avoir l'ambition de plus faire culture autour des œuvres. Et donc de donner uniquement, là on est dans un cadre promotionnel, de pas donner uniquement de la valeur aux idées au moment où elles s'expriment, mais de les faire dialoguer entre elles, de vouloir faire contre-culture beaucoup plus fort. Voilà, moi je pense qu'il faut remettre ça au centre.
Mais alors quel est le lieu pour vous où elle s'exprime le mieux, la pensée, aujourd'hui? Peut-être où elle devrait s'exprimer le mieux?
Partout. Je sais pas, moi j'essaie de prendre ma part, voilà.
Sur le terrain de la critique de cinéma, je me pose la question, est-ce qu'on pense assez, à votre avis?
Ça dépend, il y a différentes cultures de la critique. Moi je reviens de l'Amérique du Nord, et on n'est pas du tout dans la même culture de la critique qu'en France. Oui, on peut questionner la culture de la critique française.
Questionner quoi?
Questionner son niveau d'implication politique, en fait. Je trouve la pensée, ça va avec le fait d'être politisé. Et on fait un peu comme si donner son avis sur des objets culturels, ça avait à voir avec l'opinion, le goût, ou un savoir, une historicité de la critique. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de présent, il n'y a pas assez d'engagement, il y a le mépris de certaines lectures, notamment les lectures plus politisées, quoi. Mmh. Et que c'est un peu tous les mêmes qui ont la parole. Et quand on voit que, je sais pas, un critique comme Éric Nehoff va continuer à officier sur France Inter après la sortie de son livre, qui est un livre certes de polémiste, mais enfin qui produit une pensée politique. On peut s'étonner de l'absence de réaction de cette maison, par exemple, aussi.
Cette maison qui essaye de donner la parole à plusieurs
formes
de
pensée. Oui, on adore cette maison, justement. On adore cette maison. On a envie d'aimer les gens qui l'habitent.
Bon, je vous pose aussi la question parce qu'il se trouve que pendant le Festival de Cannes, votre film était présenté dans la même sélection que celui d'Abdelatif Kechiche, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui lui aussi, comme vous, interrogeait ce que c'était que de regarder. Ces réactions très virulentes qui opposaient vos deux films. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous?
Moi, je trouve qu'il y a un traitement, là aussi, je trouve qu'on ne prend pas du tout assez au sérieux ces questions. On oppose les films...
Un problème épistémologique, en fait, à vous entendre.
Oui, mais dans le sens, il n'y a pas d'égalité dans la façon dont on... Il n'y a pas assez d'égalité dans la façon dont on questionne les images, voilà. On fait, par exemple, du coup, moi, pour me disqualifier, on va faire de moi une militante, et de l'autre côté, on va dire qu'Abdelatif Kechiche est libre, mais il est tout aussi militant que moi, et je suis tout aussi libre que lui. Et effectivement, il propose un regard qui est très fort, et il faut le regarder dans ce qu'il propose, plutôt que de se draper dans l'idée d'une forme de courage ou de liberté de création. Il fait le manifeste d'un regard, et il faut le regarder totalement comme ça, quoi.
Céline Sciamma, comment, dans ces conditions, redonner au langage sa force, sa vigueur, sa poésie? Comment redonner à la pensée son droit?
En la réorganisant, en proposant, en tout cas moi, en termes de cinéma, voilà, j'essaye d'agencer des images et du son et des idées pour procurer des émotions aussi, et des trajets intimes, partager l'expérience des personnages et faire des expériences radicales, voilà.
Radicales.
Ouais, radicales, ouais.
Words, English words. Full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
Alors c'est la voix de Virginia Woolf en 1937 que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Céline Sciamma, seul enregistrement qu'on connaît d'elle. Qu'est-ce que vous entendez dans sa voix?
Oui, je voulais qu'on entende sa voix. Je suis ravie que vous n'ayez pas d'ailleurs eu la tentation de traduire ce qu'elle dit, parce que peu importe ce qu'elle dit, enfin tout ce qu'elle dit est évidemment important, mais
il est question du mot.
L'émotion, c'est d'entendre sa voix, et c'est ça aussi que fait le film, c'est faire entendre des voix, c'est-à-dire non pas forcément des discours, mais incarner, quoi. Le fait que là, en écoutant Virginia Woolf, on pense à son corps, on pense à sa peau, on pense d'un coup, elle s'incarne, quoi. Et ça, de penser à elle comme Ouais, comme corps, on entend son souffle. Moi, ça, ça me bouleverse totalement, et c'est ça le projet du cinéma aussi.
D'incarner, d'être dans l'incarnation.
Oui, d'être, voilà, moi, je, bien sûr que le film, il est régi par des idées, mais il est régi aussi par l'envie de raconter le trouble, par envie de raconter ce qui se passe quand on tombe amoureux, qu'est-ce que c'est qu'un regard qui se voile, qu'est-ce que c'est qu'un souffle qui s'emballe, comment on retrace ce rythme cardiaque, comment on rend à ces femmes leur corps, leur désir, leur envie de courir, leur envie de vivre, comment on crée un nouvel imaginaire érotique autour de ça.
Puis Virginia Woolf, c'est pas n'importe qui. Qu'avez-vous découvert en lisant Une chambre à soi ou Un lieu à soi, selon les traductions, ce livre qui peut se lire comme une sorte de manifeste?
Bah j'ai l'impression qu'on a ouvert les rideaux d'un coup dans la pièce et que j'ai vu la lumière, quoi. Elle a défini. Ben voilà, elle a sur l'écriture féminine, sur le simple fait même de se sentir représentée, comprise par une œuvre racontée. C'est déterminant et surtout ça raconte à quel point les autrices, elles font à la fois le travail de politiser, de mettre en question leur voix, mais surtout elles inventent toujours. C'est un très très grand livre de littérature.
Votre chambre à vous, votre lieu à vous, vous avez fini par les trouver, Céline Sciamma?
Oui, j'ai mes rituels, j'ai mes lieux, que ce soit des lieux peuplés ou des lieux de solitude. Je crois que j'ai cette chance, j'ai ce privilège, j'ai beaucoup agencé ma vie pour pouvoir le vivre et je crois que je commence à le vivre bien.
La salle de cinéma en fait-elle partie?
La salle de cinéma est totalement originelle là-dedans. C'était le lieu, le premier lieu à soi. Et moins aujourd'hui, mais ce qui est possiblement bon signe. Ça reste un lieu à moi dans le sens où un lieu que j'habite et possiblement sans y être.
Merci infiniment, Céline, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel, Noémie Merlan, Valeria Golino, Louana Bajrami sera après-demain, vous l'avez compris. C'est à mon sens un très grand film, on pourra en parler des heures. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers.